Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 28 juillet 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la décision du président Joe Biden de créer un mémorial en l'honneur d'Emmett Till. Il s'agit d'un adolescent noir victime d'un assassinat raciste en 1955, devenu figure posthume du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Flashback sur la vie d'Emmett Till, le contexte de son assassinat, enjeux et perspectives liés à la construction annoncée de son mémorial. Nous analysons tout cela avec nos invités. Nous aurons Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur judiciaire basé en Californie, et puis Joseph Mitterrand-Fa, avocat basé à Silver Spring dans le Maryland. Nous les retrouvons dans quelques instants. Merci de nous retrouver donc pour l'Amérique et vous. Je vous le disais, nous parlons aujourd'hui de la décision du président Joe Biden de créer un mémorial en l'honneur d'Emmett Till, un adolescent noir victime d'un assassinat raciste en 1955. Nous en parlons avec Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Mohamed Mbodj, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci de participer à cette émission. Alors, on commence avec vous, l'historien. Pouvez-vous nous rappeler qui était Emmett Till et dans quel contexte il a été assassiné?
Emmett Till était un garçon de 14 ans qui a visité donc sa famille dans le sud, dans le Mississippi. Il était originaire de Chicago et où il vivait avec sa mère. Excusez-moi. Et donc, durant les grandes vacances, il est allé visiter sa famille, une pratique qu'on connaît dans toutes les sociétés du monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il semblerait qu'il soit entré dans un délit, ou en tout cas une petite boutique, où il a trouvé une jeune dame blanche et il aurait sifflé d'admiration, disons excité, ou en tout cas... c'est ce qu'on raconte pour manifester son admiration pour cette jeune dame blanche. Quelques jours après, donc le mari de cette femme et son frère, je crois, et une autre personne l'ont kidnappé, l'ont torturé, l'ont tué, l'ont abandonné, et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Voilà donc le contexte brutal dans lequel ce jeune homme de 14 ans a été tué, simplement parce qu'il l'aurait sifflé. Et ce n'est même pas prouvé d'ailleurs, parce qu'il aurait sifflé après une jeune dame blanche.
Merci beaucoup, professeur Mohamed Mbodj. On va retrouver Dennis Beaver, qui est journaliste et chroniqueur judiciaire en Californie. Dennis Beaver, bonsoir et bienvenue.
Bonjour de Californie.
De Californie, voilà. Donc, vous venez certainement d'écouter hein, l'historien Mohamed Mbodj planter le décor, nous dire qui était Emmett Till et dans quel contexte il a été assassiné. Pour vous, comment expliquer le fait qu'Emmett Till soit devenu un acteur dans l'histoire des revendications des droits civiques aux États-Unis?
Et parce que ça montre... disons la haine des blancs contre les noirs dans le sud et un système judiciaire qui était tout à fait bizarre Ah, c'est tellement triste. Si. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Même la dame a dit, des années plus tard, il n'a rien fait.
Il faut dire effectivement que Emmett Till est décédé dans un contexte particulièrement horrible. D'ailleurs, une photo de sa dépouille avait été exposée et publiée dans certains journaux, ce qui a suscité l'indignation aux États-Unis et ailleurs. Et malgré cela, Mohamed Mbodj, les personnes incriminées n'avaient pas été condamnées. C'est bien cela, ce qui prouve d'ailleurs que on était bel et bien dans une Amérique ou une partie de l'Amérique qui était extrêmement raciste, non?
Oui, tout à fait. À cette époque, le Mississippi, certainement, devait avoir un minimum de 35 à 40% de Noirs, mais le jury était exclusivement blanc, et donc, qui ont rapidement délibéré et acquitté de tout crime. Donc, ce qui, même le disait clairement que c'était eux qui l'avaient fait, qu'ils voulaient venger l'honneur de cette jeune dame, etc. Ils ont même donné des éléments de leur confrontation avec Emmett Till. L'un d'entre eux a dit qu'il était impressionné que parce que après avoir été torturé, etc., frappé et tout, Emmett Till leur avait répondu, mais vous, les bâtards, excusez-moi le terme, je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de vous, les bâtards. Donc, ce qui montre que ce crime a été commis, que les gens savent exactement qui a commis ce crime. Les circonstances, certainement, étaient assez claires, mais néanmoins, un jury a décidé que ces trois hommes étaient donc innocents.
Voilà. Alors, Dennis Beaver, il a été donc assassiné en 1955. Nous sommes en 2023. Toutes ces années, comment expliquer que l'affaire Emmett Till soit restée dans la conscience nationale ici aux États-Unis? Et pourquoi aujourd'hui le président Joe Biden décide plus de 50 ans après de lui consacrer un mémorial?
Ce jeune homme a été vraiment important dans le... disons, dans le mouvement des droits des Noirs en Amérique. Mais peut-être je suis un peu cynique, mais à l'heure actuelle, avec Biden, c'est quelque chose politique. Hein. Il cherche des voix, donc il achète des voix avec ce qu'il fait maintenant. Donc je suis peut-être un peu trop cynique, mais c'est ce qui se passe, à mon avis.
Mohamed Mbodj, vous pensez que la décision du président Biden a des visées électoralistes? Mohamed Mbodj?
Le tollé dans le sud avec le nouveau curriculum de la Floride, avec beaucoup de lois qui sont passées ici ou là pour restreindre le droit de vote, non seulement des Noirs, mais des jeunes d'une manière générale, les primo-votants, comme on les appelle. Et donc, en créant une sorte de réverbération autour de la figure jeune de Emmett Till, Biden va attirer l'attention des Noirs, attirer l'attention des mères de famille, attirer l'attention des jeunes gens et attirer l'attention d'une manière générale sur la violence du racisme. Et sans le dire ouvertement, mais en disant qu'effectivement, avec l'accroissement très important des incidents racistes aux États-Unis, pour dire, mais peut-être que beaucoup de choses n'ont pas changé. Et nous, les démocrates, moi, Biden, je vous donne la garantie que je vais faire quelque chose. Donc, il y a bien un message politique, sans aucun doute. Bon, et puis ensuite, le succès du film, bien entendu, donc consacré à sa mère, ou en tout cas qui a été tourné autour du caractère de sa mère, donc a certainement aussi porté cette vague pour essayer de reconstruire cette histoire que beaucoup de gens aux États-Unis ne veulent pas voir. Et comme le dit DeSantis en Floride, on ne doit pas incommoder les jeunes blancs en leur faisant comprendre que peut-être les blancs avaient commis des crime horrible contre les Noirs, mais maintenant tout ça s'est passé, c'est terminé. Même la Cour suprême a dit qu'il n'y a plus de racisme vraiment qui compte aux États-Unis, donc on ne doit pas se souvenir de ce genre de choses. Biden dit non, souvenons-nous, souvenons-nous-en et votons dans ce contexte-là.
Effectivement, il faut dire que la proclamation de Joe Biden intervient alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, est accusé de vouloir minimiser certains aspects racistes de l'histoire des États-Unis dans les manuels scolaires de son histoire. Il a même déclaré que l'esclavage avait bénéficié sur certains aspects aux esclaves eux-mêmes. Alors, Dennis Beaver, vous pensez que le racisme est une question qui pourra peser sur l'élection présidentielle de 2024?
Peut-être, mais le racisme a toujours existé dans ce pays et va toujours exister. On ne peut rien faire vraiment pour changer ça. Il y a des gens qui sont tellement contre les Noirs, qui sont tellement racistes également. Et il y a des Noirs qui sont tellement racistes contre les Blancs. Au lieu de voir un pays qui, comment on dit, le melting pot, où tout le monde s'entend, les différences entre les races, entre le racisme et la haine est pire, mais vraiment pire, à mon avis, en Amérique à l'heure actuelle.
Vous reconnaissez que la haine est vraiment pire, Dennis Beaver. Comment est-ce que cette haine raciale, ce racisme, comment se manifeste-t-elle, se manifeste-t-il au quotidien?
Ça se voit d'une manière cachée, hein, et pas forcément ouvert. Mais au lieu d'engager quelqu'un qui est noir, on préfère souvent, ça dépend évidemment de la boîte, de l'employeur, quelqu'un blanc. Évidemment, la loi dit non, tu peux pas faire ça. Mais quand même, ça existe. Et depuis, disons, plus de 40 ans que j'exerce comme avocat, à mon avis, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus pire à l'heure actuelle qu'il y a 40 ans.
Alors, on va retrouver Mohamed Mbodj. Dennis Beaver connaît que le racisme continue à exister dans l'Amérique aujourd'hui, même s'il est parfois diffus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que le racisme est quelque chose qui est diffus, ou alors il y a des groupes, par exemple, qui ne se cachent pas et qui mènent des actions ouvertement racistes?
Oui, les deux à la fois. Donc, il y a certainement un côté raciste que beaucoup de gens cachent et qui ne se manifeste pas parce qu'il n'y aura pas peut-être d'occasion pour que cela se manifeste d'une certaine façon. Ou à la limite, ça se manifeste dans les réseaux sociaux où il y a une violence raciale extraordinaire qu'on pensait ne pas exister aux États-Unis à ce moment-ci. Mais de passer de la parole à l'acte, je pense que c'est ce que mon collègue vient de dire. C'est un peu là où c'est très préoccupant, où certains pensent qu'en fait, s'ils ont le droit de dire certaines choses, ils ont bien le droit d'agir en fonction de ce qu'ils ont dit. Donc, la violence verbale raciale se traduit de plus en plus en une violence physique, mais aussi, disons, dans la continuité de certaines politiques qui fondamentalement peut-être appartiennent au système capitaliste qui met en avant les profits et qui font que certains groupes n'étant pas jugés aptes à produire autant ou à consommer autant ou à investir autant vont être laissés sur la rade. Lorsque les gens n'ont pas assez d'argent pour subventionner les écoles locales, ceux qui ont de l'argent pour subventionner les écoles locales vont sortir des enfants très bien éduqués qui vont aller dans les grandes universités sans grande difficulté. Pendant que les familles pauvres, souvent de couleur brune ou noire, n'ont pas cette capacité. Donc ces choses-là persistent. L'environnement, on construit les autoroutes, les dépôts de bus dans les quartiers où habitent les Noirs, donc ce qui augmente les taux de mortalité, des maladies de l'asthme, de l'hypertension artérielle, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées. Il n'y a pas quelqu'un qui est fondamentalement, disons, coupable, comme les trois personnes qui ont tué Emmett Till, mais c'est un système qui produit toujours ses effets, et ces effets, on peut très bien les caractériser comme étant des effets racistes contre les Noirs d'une manière générale dans ce pays.
Oui, Dennis Beaver, il faut dire que c'est aussi une question qui revient régulièrement à l'occasion des violences policières lorsqu'on a des situations où des policiers blancs arrêtent un Noir et l'opération se passe mal.
Oui. La police en général sont plus ou moins, ils sont pas neutres. Ils ont leurs préjugés mais il faut constater que la plupart des criminalités, ce qu'ils voient, c'est souvent noir sur noir. Donc c'est pas rigolo. Donc ça explique peut-être leur façon d'agir avec leur arme à feu trop vite.
Mohamed Bodje, alors le président Joe Biden annonce ce mémorial. Pouvez-vous nous expliquer en quoi est-ce que ce mémorial peut être important? Qu'est-ce que ça symbolise et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact au quotidien pour les Américains qui vont visiter par exemple ces endroits-là?
Impact au quotidien, c'est un peu trop dire, mais c'est certes une symbolique qui va avoir de la publicité en un moment où la campagne pour les élections présidentielles a débuté. Donc ça va être un objet de nouvelle, de couverture médiatique. Et surtout que ça, c'est seulement l'annonce de ce qui va être fait, ce qui fait que d'ici les élections, certainement, on aura l'occasion d'inaugurer des choses ici ou là, et donc de montrer que le gouvernement de Biden reconnaît les torts de l'histoire américaine et essaie de les adresser, mais en même temps de distribuer un message d'espoir. Et aussi de mobiliser, comme j'ai dit, ces catégories qui se retrouvent dans l'histoire d'Emmett Till, les mères, les femmes, les jeunes qui vont avoir le droit de vote, etc. Parce que ce sont ces gens-là qui, en majorité, ont permis à Biden de gagner et qui permettent aux démocrates d'être compétitifs dans les élections américaines. Donc c'est aussi un moyen de les mobiliser, de les rappeler un tout petit peu ce devoir de sang, si on peut parler ainsi, et qu'ils ne peuvent pas trahir la mémoire d'Emmett Till en décidant que le racisme est si ordinaire que finalement ça ne compte pas dans le choix électoral. Donc dans cette guerre que le Parti républicain a décidé de conduire dans sa campagne électorale, donc la guerre pour ce qu'ils appellent les valeurs sociales. Donc Biden est en train de dire oui, mais vos valeurs sociales laissent de côté le racisme, vos valeurs sociales laissent de côté des gens qui sont capables et de sang-froid de tuer un jeune homme qui fondamentalement n'a rien fait et qui d'ailleurs, même s'il avait fait quelque chose, n'a fait que ce que beaucoup de républicains considèrent comme étant un droit fondamental et qui est d'exprimer leurs opinions. Être tué pour avoir sifflé, c'est le summum du crime contre la liberté d'expression. Et aujourd'hui, les républicains se targuent d'être les chevaliers qui défendent la liberté d'expression. Donc Biden va jeter une pierre dans le jardin.
Alors, Dennis Beaver, je le rappelais, Emmett Till est devenu une figure posthume du mouvement des droits civiques ici aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce mémorial ou le débat autour de ce mémorial va relancer le mouvement des droits civiques aux États-Unis qui semble quelque peu s'être progressivement estompé avec le temps?
Ce mouvement a été déjà relancé il y a 2-3 ans. Alors, Mohamed a très bien raison, il ne faut pas oublier. Et dans ce qui se passe avec ce jeune homme Till, c'est un peu comme Holocauste. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec les Noirs, l'histoire de l'esclavage et tout ça en Amérique. C'est tellement important d'avoir d'être conscient de ce qui s'est passé.
Un devoir de mémoire est effectivement important. Mohamed Mboudj, il n'en reste pas moins que le racisme semble être un problème structurel dans ce pays qui revient au fil des élections, au fil du temps. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut adresser durablement cette question pour faire en sorte que le racisme pour les générations futures, peut-être, ne soit plus un problème ici aux États-Unis?
Il y a certainement deux grands axes à avoir. D'abord, peut-être que dans sa grande majorité, les Américains ne sont pas racistes, ou même s'ils sont racistes de façon inconsciente, ne le manifestent pas et vont résister à l'envie de manifester ce racisme. Et faire en sorte que ces gens-là votent du côté démocrate, se mobilisent pour s'opposer à ceux qui sont ouvertement, visiblement, et veulent actionner un racisme, à travers les cours de justice, à travers les législatures des États du Sud, etc. Donc, ce droit de vote, les élections, je pense que d'une manière générale, certains observateurs disent que c'est par là que va passer la résistance contre l'érosion des droits civiques. Les électeurs vont se prononcer et dire non, nous tenons quand même à ce que ce minimum de droits civiques qui a été plus ou moins renforcé et systématisé dans les années 50 et au début des années 60, reste en grande partie, malgré ce que dit la Cour suprême, malgré ce que dit les législatives de certains États du Sud. Et l'autre front, c'est bien entendu toujours le front éducationnel, faire en sorte que non seulement l'éducation soit égale pour tous, c'est-à-dire que les mêmes sommes d'argent soient investies sur les élèves noirs comme sur les élèves blancs, que les mêmes opportunités soient offertes partout, que l'intégration existe de façon dynamique et compréhensive, et de ne pas créer des ghettos, de ne pas créer des systèmes où, à l'intérieur des villes comme à New York, il y a des quartiers où tous les élèves des écoles sont des Noirs et de l'autre côté, il y a des quartiers où la quasi-totalité des élèves de ces écoles, il y a un très faible pourcentage de Noirs. Mettre fin à ces choses, à cette sorte d'autodiscrimination créée à l'intérieur de l'éducation et faire en sorte que l'éducation, aussi dans son contenu, dans le curriculum, puisse prendre le contre-pied de ce qui est en train de se faire en Floride et faire en sorte qu'effectivement, la vraie histoire, telle qui s'est vraiment passée, même si elle est très moche, même si elle n'est pas très reluisante, comme l'assassinat d'un garçon de 14 ans par trois grands gaillards, simplement parce qu'il a sifflé, mais que cette histoire-là reste, qu'elle soit enseignée et que les gens se rendent compte qu'effectivement, il y a une trajectoire qui fait que les Noirs américains ne sont pas, sur cette trajectoire, ne sont pas portés de la même manière sur cette trajectoire de devenir, d'être américains que leurs homologues blancs.
Denis Beaver, vous qui êtes avocat et chroniqueur judiciaire, il y a peut-être sur le plan juridique quelque chose à faire, non, pour aider à combattre durablement le problème du racisme ici aux États-Unis?
Alors, tu sais, on a un tas de lois. Une loi ne va rien changer. Il faut que les gens pensent d'une manière différente. Tu peux écrire n'importe combien de lois que tu veux, ça ne va rien changer. C'est au niveau d'individus qui pensent, qui veulent croire qu'être raciste contre les Noirs, contre n'importe qui, ce n'est pas une bonne chose. Ça commence avec moi, avec moi. Est-ce que je suis raciste? Est-ce que je regarde quelqu'un et uniquement la couleur de sa peau me dit quelque chose? Alors, c'est ça le problème.
Merci beaucoup à Denis Beaver. Merci également à professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Merci d'avoir participé. C'est ici que prend fin l'Amérique et vous. À la présentation, Mohamedou Oumfa. À la réalisation, c'était Lionel Gaïma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci. Dans quelques instants, Le Monde aujourd'hui, le point complet sur l'actualité.